À Los Angeles, une bande de braqueurs prend d'assaut une entreprise de fourgons blindés et disparaît avec des millions de dollars en poche. Le FBI a plusieurs suspects en ligne de mire, mais ne dispose pas d'assez d'indices pour les faire arrêter. Agents et détectives vont s'infiltrer dans cet univers malfamé pour enfin mettre les bandits face à la justice. Vous écoutez les dossiers du FBI, le prix de la cupidité. Première partie.
Le secteur industriel de Los Angeles est situé dans un quartier violent. Les gangs de rue y font régner la violence. Les entreprises sont installées dans des immeubles anonymes et plusieurs sont entourées de barbelés. Une de ces entreprises était une importante société de fourgons blindés. Le vendredi soir, 13 septembre 1997. Les employés de l'entreprise vaquaient à leur occupation habituelle en comptant et en classant plus de 20 millions de dollars. Cet argent devait être distribué aux divers guichets automatiques de Los Angeles pour répondre aux demandes du week-end. Les 5 employés, dont 2 gardiens de sécurité, travaillaient de nuit. À 00h30, un gardien prit sa pause dans la salle à manger, comme il le faisait toutes les nuits. Mais il n'était pas seul. Cinq hommes armés maîtrisèrent le gardien en quelques secondes. Ils l'entraînèrent de force dans un bureau où se trouvaient les dispositifs de contrôle des écrans de surveillance. C'est alors qu'un autre gardien de sécurité, qui s'apprêtait à partir chez lui, entra dans la pièce à son tour. Sans armes et sans son uniforme, il se rendit sans opposer de résistance. 4 des intrus prirent la direction de la chambre forte. Le 5e tenait les gardiens en joue pendant qu'il examinait les écrans de contrôle. Les employés qui travaillaient dans la salle attenante de la chambre forte ne savaient pas que leur immeuble avait été pris d'assaut. Les braqueurs les menacèrent de tirer si quiconque leur désobéissait ou faisait quelque geste subi. Les voleurs avaient maintenant accès à la chambre forte qui contenait 20 millions de dollars. L'un d'entre eux semblait avoir les commandes. Il criait des ordres à ses complices.
No, don't touch that. This bin over here, this one right here. Number 5, everything's on schedule. Number 6.
Il se servait également d'écouteurs radio dissimulés sous sa cagoule pour diriger des complices à l'extérieur de la chambre forte. Quand il donnait des ordres, il n'appelait pas ses complices par leur nom, mais seulement par des numéros. Les voleurs étaient d'une redoutable efficacité et ne faisaient aucun geste inutile. En moins de 10 minutes, ils transportèrent plusieurs millions de dollars à l'aire de chargement. Dans le bureau de contrôle, les hommes dévissèrent le magnétoscope qui était fixé à un bureau. Quelques secondes plus tard, les employés entendirent de nouveau du bruit dans le bureau. Quand les employés virent le chef et un de ses complices revenir, ils étaient convaincus que c'était pour éliminer ces témoins gênants. Mais les assaillants ne semblaient vouloir que les clés de la camionnette du gérant de la chambre forte. Puis, soudain, ce fut le silence complet. Croyant les hommes partis, les gardiens défirent leurs liens. Ils appelèrent ensuite le service d'urgence. Des policiers du service de Los Angeles furent immédiatement dépêchés sur les lieux.
Okay, hold on, we're gonna go down there right now.
Le détective John Lee Carter sut dès le début que cette affaire n'était pas comme les autres.
Il nous est arrivé d'enquêter sur le vol de blindés sur la route. Mais c'était la première fois qu'un vol était commis dans les lieux mêmes de la société.
les policiers dressèrent un périmètre de sécurité pendant que les détectives interrogeaient les employés. Ceux-ci déclarèrent que les cinq assaillants se déplaçaient dans les locaux comme s'ils y étaient déjà venus auparavant. Ils ne les avaient pas vus partir, mais ils avaient entendu le bruit d'un véhicule avec un moteur diesel se garer au quai de chargement, puis repartir. Un sixième homme devait donc se trouver au volant de ce véhicule. Les détectives s'entretinrent ensuite avec le gérant de la chambre forte, dont la camionnette et les clés avaient été volées. Pourquoi donc les voleurs avaient-ils pris ces clés plutôt que celles de ses collègues ? Le gérant déclara qu'il garait son véhicule personnel dans le même emplacement tous les soirs.
Aucun des voleurs ne lui avait demandé de quoi avait l'air son véhicule.
Détective John Licata.
Cela nous portait à croire que celui qui avait pris les clés et volé le véhicule le connaissait bien.
Le gérant déclara que la voix de l'un des hommes lui était familière, mais il ne se souvenait pas de son nom. Il promit aux enquêteurs de les appeler si cela lui revenait. Les techniciens judiciaires prirent les empreintes sur les serrures de la porte de l'entreprise. Des dommages sur ces portes indiquaient que les voleurs avaient forcé ces serrures. Mais un examen ultérieur au labo démontra que ce n'était pas le cas.
On a remarqué que les serrures et les mécanismes des portes étaient endommagés, mais pas assez pour que les portes aient cessé de fonctionner correctement et se soient ouvertes.
On croyait que les voleurs avaient utilisé une clé pour entrer et qu'ils avaient ensuite fait mine de forcer les serrures. Les représentants de l'entreprise estimèrent plus tard leur perte au montant affolant de 18,9 millions de dollars. Visiblement, les voleurs avaient su quoi prendre et quoi laisser derrière eux.
Tous les casiers qui contenaient d'importants montants d'argent avaient été pris. Mais les voleurs avaient laissé ceux qui ne contenaient que des timbres et des chèques.
Cela laissait supposer que les voleurs savaient comment la société entreposait l'argent. Ils semblaient également savoir où était installé le système de contrôle des écrans de surveillance et où se trouvait le magnétoscope qui était caché dans une armoire verrouillée à l'arrière du bureau. Les employés avaient entendu les assaillants détruire la serrure de cette armoire pour y prendre le magnétoscope.
Les appareils d'enregistrement étaient tous gardés dans une armoire inaccessible à la plupart des employés. On a interrogé tous les employés de l'entreprise et 80% d'entre eux ignoraient jusqu'à l'existence de ces appareils dans le bureau.
Les enquêteurs examinèrent également l'aire de chargement à la recherche de toute trace de pas, d'empreintes de pneus ou de fibres de tissu. Ils ne trouvèrent rien. Mais ils découvrirent ce qui semblait être un réflecteur de camion fendillé.
J'ai parlé personnellement à l'employé chargé de l'entretien des lieux plus tôt le même jour, et il m'a assuré que ce réflecteur devait être tombé là dans la soirée. On en a donc déduit qu'il provenait du véhicule des voleurs. On disposait de peu d'indices sur la marque de cette voiture, mis à part ce réflecteur. Et l'on ignorait jusque-là si c'était un équipement qu'on trouve fréquemment sur les camionnettes et les voitures.
Comme l'assurance pour ce genre de vol était de juridiction fédérale, le FBI se joignit à l'enquête. L'agent spécial John McCarron du bureau du FBI à Los Angeles étudia l'enregistrement de la scène du crime grâce à l'enregistrement de la police de Los Angeles qui décrivait, les unes à la suite des autres, les activités des assaillants au cours du vol. Les cinq hommes au visage masqué avaient volé la plus importante somme d'argent de l'histoire des États-Unis. L'agent McCarron espérait obtenir l'aide du public.
On a donné une description générale aux médias des individus qui avaient commis le vol, en termes de grandeur, de poids et des vêtements qu'ils portaient. On a également ajouté que ces individus étaient tous armés et l'on a offert une récompense.
L'assistante du procureur Alka Sager espérait que ces descriptions, même si elles étaient vagues, permettraient d'obtenir une piste.
Les victimes nous ont dit qu'elles croyaient que les voleurs étaient noirs. Elles avaient pu voir la couleur de leur peau par les ouvertures de leur cagoule. Elle croyait toutefois que l'un d'entre eux était d'origine hispanique car sa peau semblait moins foncée. Elle n'avait pas vu leur visage.
Malgré le peu d'indices, les enquêteurs étaient toujours d'avis que le vol avait été orchestré par quelqu'un qui connaissait bien l'entreprise. Mais qu'ils étaient ou non d'anciens employés, ils n'avaient guère laissé d'indices derrière eux. Et avec 18,9 millions de dollars en main, ils pouvaient maintenant être n'importe où. En septembre 1997, le FBI et la police de Los Angeles n'étaient pas encore parvenus à identifier les 6 hommes masqués qui avaient volé une entreprise de fourgons blindés, emportant avec eux près de 19 millions de dollars. On croyait que l'un d'entre eux était un employé actuel ou un ex-employé de la société parce que le gang était entré dans l'immeuble avec une clé et savait où se trouvait l'équipement de surveillance qui était pourtant caché. Au cours d'un deuxième interrogatoire, le gérant de la chambre forte, qui était de service le soir du vol, déclara qu'il croyait avoir reconnu la voix du chef de la bande. Selon lui, il s'agissait d'Alan Pace, un ancien employé. Il ajouta que ce Pace était celui qui était parti avec les clés de sa camionnette. Pace connaissait ce véhicule pour l'avoir déjà emprunté. L'agent spécial du FBI, John McCarron, examina le dossier de cet ex-employé.
Alan Pace avait travaillé pour cette société pendant environ un an et demi. De fait, il avait été suspendu par la société la veille du vol.
Alan Pace, âgé de 28 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire. Lors de son renvoi pour des motifs disciplinaires, il n'avait toutefois pas remis ses clés. Les enquêteurs se rendirent chez Pace à Los Angeles pour l'interroger.
Alan Pace.
Celui-ci déclara qu'il avait bien entendu parler du vol dans les médias, mais il assura les agents qu'il n'était pas mêlé à ce crime. Il ajouta qu'il participait à une fête avec sa petite amie pendant la nuit du vol. Il leur donna ensuite l'adresse de cette amie et son numéro de téléphone. Les enquêteurs devaient vérifier l'alibi de Pace. Ils firent tout d'abord des vérifications sur cette femme. Le détective Licata apprit qu'elle avait également été à l'emploi de l'entreprise de fourgons blindés.
La petite amie de Pace avait travaillé dans la chambre forte. Son travail consistait à s'occuper de l'équipement de surveillance. Elle avait quitté cet emploi environ un mois avant le vol.
Les enquêteurs interrogèrent la petite amie de Pace à propos de la nuit du vol. Elle confirma que Pace, elle, de même que plusieurs de leurs amis, avaient participé à une fête à Long Beach. Pace et elle y étaient restés jusqu'aux petites heures du matin. Plusieurs témoins pourraient corroborer ces dires. Même si on avait des soupçons, l'alibi de Pace tenait la route. Les enquêteurs étaient dans une impasse. Ils devaient changer de cap pour que l'enquête continue de progresser. Leur seul indice était un réflecteur fendillé de couleur orange qu'on avait trouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs croyaient qu'il provenait d'un camion au moteur diesel à bord duquel les voleurs avaient pris la fuite. Ils devaient trouver ce véhicule.
J'ai obtenu l'aide de mes collègues.
Détective John Licata.
Au cours des 5 soirées suivantes, notre groupe de 6 hommes est allé sur les lieux de l'entreprise entre 23h et 3h du matin. Nous avons interrogé tous les gens qui fréquentaient ce secteur, les piétons et les automobilistes.
Une semaine après le vol, les policiers patrouillèrent dans le quartier environnant de l'entreprise. Après quelques nuits, ils trouvèrent un sans-abri qui vivait dans le quartier. Celui-ci déclara que la nuit du vol, il avait aperçu un camion de location de dimension moyenne dont le moteur était en marche près de l'immeuble de la société. Au bruit qu'il faisait, ce camion avait un moteur diesel.
Il avait remarqué le véhicule parce que d'habitude, il y avait peu d'activité à cette heure dans le secteur. Il n'avait toutefois pas vu le visage du conducteur. C'était la première fois qu'il voyait ce véhicule et il ne l'avait pas revu depuis.
Take care of yourself, Henry.
All right, sir.
La description de ce camion au moteur diesel concordait avec les témoignages des employés qui avaient entendu un moteur diesel dans l'aire de chargement. Les enquêteurs croyaient que le réflecteur orange trouvé dans l'aire de chargement provenait de ce camion. Des équipes d'agents ratissèrent toutes les agences de Los Angeles qui louaient des camions équipés de moteurs diesel. Ils montrèrent la photo de la pièce brisée trouvée sur la scène du crime. Plusieurs d'entre eux reconnurent le réflecteur d'un certain modèle de camion. Ce qui était ennuyeux avec ces réflecteurs, c'est qu'ils tombaient souvent et qu'on devait les remplacer.
On a trouvé 83 agences de location de camions qui louaient des véhicules dont les réflecteurs tombaient souvent.
Détective John Licata.
On a obtenu l'autorisation d'obtenir de toutes ces agences les factures de location de véhicules pour une période de 4 mois. 2 mois avant le vol et 2 mois après celui-ci.
Les enquêteurs passèrent plusieurs heures à examiner les documents. On ne trouva aucune facture au nom d'Allen Pace ni de sa petite amie. Cela semblait être un autre cul-de-sac. Les autorités contactèrent l'assistante du procureur Alka Sager pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.
On ne peut pas obtenir un mandat simplement parce qu'on dispose d'un suspect et qu'on le croit responsable d'un crime. On doit disposer de preuves de son implication. Allen Pace avait nié être mêlé à ce vol et il avait même déclaré qu'il se trouvait à un autre endroit. Il disposait d'un alibi que les témoins que nous avions interrogés avaient corroboré. À ce stade-ci, tout ce qu'on savait sur lui, c'était qu'il était mécontent d'avoir été renvoyé la veille du vol et qu'un des employés croyait qu'un des voleurs avait une voix semblable à la sienne. C'était nettement insuffisant.
Pour trouver autre chose, le FBI et la police de Los Angeles mirent l'ex-employé sous surveillance. Si Pace était mêlé au vol de plusieurs millions de dollars, peut-être finirait-il par montrer des signes de sa richesse.
On a surveillé Pace, mais il ne semblait pas vivre au-dessus de ses moyens. Il ne dépensait guère d'argent. Il ne semblait pas disposer de grandes quantités d'argent liquide non plus.
Rien ne démontrait formellement que Pace était mêlé au vol, sauf quelques preuves indirectes. Les mois s'écoulèrent et l'enquête cessa de progresser. La récompense offerte pour toute information menant à une inculpation se chiffrait à 250 000 dollars.
Malgré une campagne de publicité importante sur cette affaire et la récompense offerte pour toute information sur les auteurs de ce vol,
Alka Sagar, assistante du procureur.
On ne disposait d'aucune piste, ni de preuves judiciaires, ni de témoins. L'enquête s'était heurtée à un mur.
Même si Pace était encore le suspect principal, sans indice plus solide, le FBI était incapable de procéder à son arrestation. Pour l'heure, Allen Pace et ses 5 complices semblaient s'en être tirés indemnes avec près de 19 millions de dollars en argent liquide.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Marc Carras et Marc Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio.
Production éditoriale, Sarah Kosievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citruc.